Chapitre 16. Depuis qu'il l'avait regardé dans les yeux, Nathan savait qu'Outros ne renoncerait pas à son siège. Parangon de détermination, cet homme n'abandonnait jamais, même quand la raison aurait dû l'y pousser. Cela dit, avec tout ce qu'il avait perdu, il semblait normal qu'il s'accroche à sa mission. Les portes de la ville refermées et les défenses rétablies, le Douma passerait des jours à débattre des informations que Nietzsche et Nathan rapportaient. Comme toujours, ça n'aboutirait à rien. Face à une telle armée, la ville n'avait pas une chance dans une confrontation directe. Il fallait chercher un chemin détourné.
« Chère Elsa, » dit Nathan à la magicienne, « le lendemain de la rencontre avec Outros, nous allons devoir faire preuve d'imagination. »
Par une belle journée, le sorcier et sa nouvelle amie marchaient côte à côte.
« Ildakar la Glorieuse étant ce qu'elle est, » continua le vieux sorcier. « Je ne doute pas que ces pratiquants de la magie trouvent une solution originale. »
Fort belle, Elsa, du genre bien charpenté, n'avait rien d'une délicate demoiselle. Dans ses yeux, on lisait une grande intelligence, un sens de l'humour acéré et une infinie patience. Une qualité dont elle avait su faire montre avec Nathan lorsqu'il était privé de son don. Après que le sorcier de chair André eut remplacé le cœur de l'ancien prophète par celui d'Ivan, elle s'était très bien occupée du convalescent. Nathan sentit un élancement au niveau de sa cicatrice. Rien d'inquiétant. Son nouveau cœur était fort, son don se portait à merveille, et il se sentait de nouveau entier.
Quand Outros est arrivé il y a si longtemps, les sorciers ont expérimenté une série de sortilèges. Les effets et les conséquences de leurs actes ne les inquiétaient pas. À n'importe quel prix, ils entendaient protéger Ildakar.
Les deux amis marchaient au bord de la falaise qui surplombait le fleuve. D'un geste, Elsa désigna les marécages sur les flancs de la ville qui assuraient en partie sa sécurité.
« Regarde, ils ont inondé les terres, les transformant en un immonde bourbier. »
Dans sa robe de soie violette plus confortable qu'extravagante, Elsa aurait pu passer pour une citadine lambda. Bien que membre du Douma, elle ne donnait ni dans la pompe ni dans l'ostentation. Dans ses fonctions, elle s'efforçait toujours de servir Ildakar et de satisfaire ses habitants. Jusqu'aux récentes émeutes, elle possédait des esclaves domestiques, mais les traitait remarquablement bien. Souvent, elle les avait achetés pour leur épargner de tomber sur des maîtres moins agréables ou de finir dans l'arène. Après la révolte lancée par Masque Miroir, elle s'était adressée à ses serviteurs à l'esprit échauffé par le vent de colère qui soufflait sur Ildakar. Couverte de poussière, de cendres et de sang après avoir épaulé Nietzsche et Nathan dans leur combat contre la Sovréna, elle avait annoncé à ses esclaves qu'ils étaient désormais affranchis. Mais s'ils souhaitaient rester chez elle, elle en serait ravie. Presque tous avaient opté pour cette solution.
« Pour nous défendre ou attaquer Outros, » dit Nathan, « ne pourrions-nous pas recourir à ta magie de transfert ?»«
On pourrait essayer, oui. »
Imitant un des tics du vieux sorcier, Elsa se gratouilla le menton. Conquis, Nathan trouva ça adorable.
« Je peux générer une rune d'ancrage ici à Ildakar, mais pour effectuer le transfert, le symbole complémentaire doit être présent sur ma cible. En clair, si je génère une rune à côté des flammes crépitantes de ma cheminée, je peux transférer cette chaleur dans le fief d'Outros et le faire brûler vif. Mais pour ça, il faudrait que quelqu'un lui ait dessiné la même rune sur la poitrine. » « Entre nous, je doute qu'il se laisserait faire. »«
C'est peu probable, en effet. Pourtant, ne renonçons pas à être créatifs. Pensons hardiment, ça ne peut pas faire de mal. Il doit y avoir une solution. »
Au pied de la falaise, une barge chargée de vivres et d'équipements venait d'accoster. Du ravitaillement bienvenu en perspective d'un long siège. Grâce à un ingénieux système de monte-charge, ces merveilles seraient bientôt à l'abri dans les entrepôts de la ville.
« Nous allons lancer un appel en amont et en aval du fleuve, » dit Elsa. « Ildakar a besoin de tout ce que les villes et les villages peuvent lui fournir et nous ne lésinerons pas sur le paiement. »«
La cité peut soutenir un siège pendant très longtemps, » approuva Nathan. « Sous le linceul de l'éternité, vous viviez en autarcie. »«
C'est vrai, mais comme tu l'as souligné, les fondamentaux de la magie ne sont plus les mêmes. Le sort de pétrification s'est dissipé et nous en sommes au début des bouleversements provoqués par le changement stellaire de Richard Drall.
Le nouveau cœur de Nathan battit un peu plus fort dans sa poitrine.
Au moins, la brèche dans le voile est refermée, nous protégeons à jamais du gardien ou d'une armée de morts vivants.
C'est bien, mais nous ne manquons pas d'ennemis dans le monde des vivants.
En déambulant, Elsa évoqua sa vie à Ildakar. Longtemps, elle avait été mariée à Derek, un puissant sorcier féru d'artisanat et de musique. Doux et tendre, Derek démontrait son génie quand il jouait du luth, produisant des mélodies plus bouleversantes que n'importe quel sort, si spectaculaire fut-il. Après des années de vie commune, Elsa l'avait taquiné au sujet de son ventre rebondi. Amusé, Derek lui avait répondu que c'était un moyen de s'assurer qu'elle ne l'aimait pas pour son physique. Quelques jours plus tard, dînant seul dans ses quartiers, il s'était étouffé avec une arête de poisson. Personne n'ayant été là pour l'aider, Elsa avait trouvé son cadavre le lendemain. Après plus d'un siècle de deuil, elle était de nouveau capable d'évoquer le défunt avec un petit sourire et des étincelles dans les yeux.
« Et tu ne t'es jamais remarié ?»
s'étonna Nathan après avoir entendu cette histoire.
« Pourtant, ici, les nobles et les sorciers ne manquent pas. »«
Certes, mais... » Je n'ai jamais rencontré un homme aussi doux que Derek et doté de si charmantes passions. Nathan, je ne suis plus une jeune fille en fleurs en quête de romance. Telle qu'elle est, ma vie me satisfait.
D'un geste viril, Nathan envoya sa crinière blanche derrière son épaule.
Très chère, cette jeune fille en fleurs, je suis sûr qu'elle est encore en toi. D'ailleurs, je la reconnais dans tes yeux et dans ton sourire.
Elsa se détourna trop lentement pour qu'il ne la voie pas s'empourprer. Pressée de passer à autre chose, elle évoqua les salles dans l'ancienne Ildakar qui servaient d'antre et de laboratoire aux sorciers.
En ce temps-là, les détenteurs du don étaient plus puissants. Souvent, ils créaient des sorts si terribles qu'ils se refusaient à les utiliser. Il faut dire qu'ils n'en avaient pas vraiment besoin.
Nathan songea aux trésors de connaissances conservés dans les archives de surplomb du monde. Hélas, ils étaient hors de leur portée désormais.
Aujourd'hui, la situation est différente, non? Très cher, ces sorts nous seraient précieux. Si tu as une idée pour les récupérer...
Ici, il y a des endroits que tout le monde a oubliés depuis plus de 1000 ans. À l'abri du linceul de l'éternité, nous nous sommes peu à peu assoupis. Et nul n'a jamais imaginé que l'armée d'Outreau se réveillerait.
Par hasard... Te souviens-tu de l'emplacement d'un de ces endroits ?
Dans les rues en pente de la cité, les deux amis traversèrent plusieurs marchés en plein air, passèrent devant des entrepôts et longèrent une série d'échoppes bruyantes et odorantes, des forges et des tanneries pour l'essentiel. En chemin, Elsa et Nathan saluèrent des charpentiers occupés à scier des planches, des ébénistes en plein travail malgré le siège, et des tisserands qui suaient sang et eau devant des métiers géants installés à ciel ouvert. Du coin de l'œil, Nathan vit qu'ils produisaient des longueurs de tissu ornées de motifs sophistiqués, magiques ou purement décoratifs, et il n'aurait su le dire. Certains artisans jetèrent des regards soupçonneux aux deux inconnus. Plein d'assurance, Nathan se contenta de les saluer joyeusement. Suivant Elsa, il passa devant une bande de gamins turbulents.
Se fit aboyer après par un chien et contourna prudemment la forge d'un type occupé à fabriquer de gros clous qu'il jetait ensuite dans un seau d'eau froide.
Peu avant le mur d'enceinte, là où le terrain redevenait plat, se dressaient les ruines de ce qui était jadis les tours des astronomes et des mages du climat. Après la migration des détenteurs du don dans les niveaux plus élevés de la ville, ces structures étaient devenues des silos à grains, des logements ouvriers ou plus simplement des tas de gravats laissés à l'abandon. Sur certains bâtiments, Nathan repéra des arches de pierre scellées qui devaient donner sur des salles obscures.
« Là, devant nous !»
Elsa désigna un rectangle en grès qui avait dû être le premier niveau d'un grand édifice. Là aussi, l'arche d'entrée était scellée.
« Ça donne sur une salle secrète !» annonça la magicienne. « Seuls les sorciers majeurs y avaient accès. Dans les archives, je n'ai jamais trouvé d'informations précises. »
« Dans ce cas... » « Si nous explorions, » proposa Nathan.
Se campant devant l'arche, il posa les doigts sur les petits blocs de pierre qui la scellaient. Cette protection semblait aussi solide que le reste de la structure.
Cela dit, il y a un problème.
Elle s'applaqua une paume sur la pierre à côté de la main du vieux sorcier, qu'elle frôla délibérément au passage.
Assez simple à résoudre, me semble-t-il.
Nathan recula.
Exact. Avec mon don, je peux faire sauter l'obstacle.
Je n'en doute pas, mais pourquoi se compliquer la vie? Ma magie de transfert suffira amplement.
Approchant du forgeron, Elsa attendit qu'il cesse de cogner, puis demanda s'il pouvait leur prêter un seau. Saisissant un récipient vide, il le tendit à la magicienne et désigna une fontaine.
« Je suis prêt à tout pour aider Ildakar, »
dit-il sans une once d'ironie. Nathan se chargea de remplir le seau et le porta devant l'arche.
« Tu veux dissoudre le mur ?»«
Bien sûr que non !»
Trempant les doigts dans l'eau, Elsa dessina une rune sur le seau. Avant que le symbole ait pu couler ou s'évaporer, elle recommença l'opération et traça sur l'arche un motif identique mais bien plus grand.
« Rune d'ancrage et rune satellite. Regarde bien !»
Dès que le second dessin fut terminé, le seau se mit à trembler. À l'intérieur, l'eau ondula, des cercles concentriques se formèrent, puis une sorte de tourbillon se déchaîna. Le mur aussi trembla. Dans le seau, l'eau se troubla, puis devint glauque et se transforma en boue. Sur l'arche, les blocs se liquéfièrent, le mortier qui les solidarisait commençant à fondre. Quand l'eau du seau fut aussi dure que du ciment, certains blocs de l'arche sortirent de leur logement et tombèrent sur le sol. Son sortilège achevé, Elsa souffla.
« Maintenant, il ne reste plus qu'à pousser. »«
Remarquable !» s'écria Nathan.
Des deux mains, il poussa et l'obstacle s'écroula, dévoilant une grande salle voûtée obscure.
« Très cher, je croyais que ce serait plus difficile. Quand on sait ce qu'on fait, la magie de transfert est rudement efficace. »
Une fois dans la salle, le sorcier et la magicienne invoquèrent chacun un globe lumineux afin de voir autour d'eux. Dans l'air agréablement frais, Nathan capta des relents métalliques, pas seulement l'odeur de la rouille, mais celle de l'argent et du cuivre. Dans ce sanctuaire, il n'y avait aucun stock d'artefacts et pas davantage d'étagères lestées de fabuleux grimoires. Tout ce qu'il contenait, c'était la margelle qui se dressait en son centre. Oui, la margelle d'un puits. Et l'étrange odeur venait de là.
« J'espérais bien plus que ça, »
soupira Elsa.
« Une simple source. Et pourquoi la dissimuler ainsi ?»
Nathan frissonna, un mélange d'angoisse et d'excitation.
« J'ai déjà vu des endroits semblables. » C'est un puits, oui, mais de la slif.
Pour convaincre Nietzsche de les accompagner, Nathan ne se perdit pas dans des explications détaillées.
Même après le retour de mon don, notre découverte me sera inutile, magicienne. Pour en tirer parti, il faut contrôler les deux formes de magie, addictive et soustractive. C'est donc à toi que reviendra cet honneur.
Une fois dans la salle, Nietzsche invoqua un globe lumineux et étudia le puits central. Intrigués par l'enthousiasme de Nathan, Damon, Quentin et Lani avaient suivi le mouvement.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Damon à Elsa.
« Un trou, c'est tout ce que vous avez trouvé ?»«
C'est beaucoup plus qu'un trou, » répondit Nietzsche en avançant. « Ce puits de la Slif donne accès à un réseau souterrain. »«
La Slif ?»
répéta Lani.
« Je n'ai jamais entendu ce nom. »
À l'origine, c'était une femme, mais elle fut transformée en une formidable créature. Quand on contrôle les deux magies, on peut voyager en elle à une vitesse impensable. Je l'ai déjà fait.
« Cette Slif est-elle encore vivante ?»
demanda Nathan.
« Tu vas pouvoir voyager ?»
S'appuyant à la margelle, Nietzsche sonda les profondeurs du gouffre apparemment sans fond. Elle n'entendit aucun bruit, ne capta aucune présence.
Par le passé, j'ai voyagé dans deux slifs différentes. Il peut s'agir de l'une d'entre elles ou d'une troisième. Ildakar est très loin de tout. Ce réseau peut donner exclusivement sur des destinations situées dans l'ancien monde.
Des idées tourbillonnèrent dans l'esprit de Nietzsche. Si le réseau était plus vaste que ça, pourrait-elle aller au palais du peuple informer Richard du réveil d'une antique armée? Pour le moment, Ildakar était isolé, assiégé, et n'avait aucun espoir qu'on vienne à son secours. Mais ça pouvait changer.
Quand je connaîtrai les intentions d'Outros, je voyagerai pour prévenir le reste du monde.